Chapitre 39. Ce soir, Alice laisse Frank vaquer à ses occupations. Quand ils sont rentrés du pub, il est allé dans le studio en disant qu'il était fatigué. Elle sait qu'il veut être seul pour réfléchir aux souvenirs qui lui sont revenus aujourd'hui. Elle monte dans sa chambre et jette un œil à ce que font ses parents. Ils sont assis sur leur beau canapé John Lewis et fixent la télé. Elle sait qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de regarder. Si elle les appelait pour leur demander ce qu'ils font, ils auraient du mal à lui répondre. Mais même dans le brouillard de leurs mémoires évanescentes, ils se tiennent la main. Ils ne se lâchent pas. Ils ne sauraient pas dire qui est le premier ministre, quel est le jour, le mois ou l'année. Ils ont du mal à se souvenir des prénoms de leurs filles et sont loin de pouvoir dire s'ils ont déjà déjeuné ou s'ils ont quelque chose de prévu pour le dîner. Ils ne connaissent plus rien, pas même les choses cruciales. Mais ils savent qu'ils s'aiment. Alice lève les yeux de l'iPad et regarde son lit qui porte encore les marques de la nuit passée. Les draps sont défaits, ridés, ondulés comme le sable d'une plage. Elle refuse de se repasser le film de ce qui lui est arrivé. Elle tire violemment les draps, les roule en boule et les laisse devant sa porte pour ne pas oublier de les laver dès le lendemain. Elle sort de la literie propre du placard séchoir et refait son lit avec précision et rapidité. Dans un coin de sa chambre, elle trouve les coussins brodés qu'elle a achetés il y a bien longtemps comme décoration. Elle ne les a jamais utilisés parce qu'elle n'a pas le courage de les enlever et de les remettre tous les matins et tous les soirs. Et que ce n'est vraiment pas son genre. Elle les place sur les oreillers, aplatit la couette et observe l'ensemble. C'est joli. Ça ne ressemble pas à un lit où l'on passerait une nuit torride avec un étranger qui pourrait bien être un meurtrier. Ça ressemble à un lit de femme célibataire, un lit pour lire des romans, pour rassurer ses enfants, pour parler à ses chiens, même s'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Elle entend la voix de ses parents.
« Je t'aime, » dit son père.
« Je t'aime aussi, » répond sa mère.
« Tu penses qu'on va manger quoi ce midi ?»
Frank est allongé sur le dos, les mains posées sur le ventre, les yeux fixés sur les motifs du plafond au-dessus de lui. Les toiles d'araignée, les aspérités, les nœuds, les charnières. Son esprit s'éclaircit enfin, et vite. Il sait où il habite maintenant. Il vit dans un appartement. Il faut descendre un escalier, ouvrir une porte, descendre encore. Il y a un salon droit devant, une chambre sur la droite, une entrée sur la gauche qui mène à une cuisine et une salle de bain. Les murs sont jaunes. Ses chaussures sont derrière la porte. Des baskets, des bottes, des chaussures de foot colorées et plusieurs paires marron en cuir avec des lacets. Au-dessus, ses manteaux, un parapluie, une table avec des clés. Le plancher est en bois couleur abricot. Le salon est carré, mal rangé, meublé avec un grand canapé crème qui appartenait à sa mère, croit-il se souvenir, et une longue table basse couverte de papier et de tasses sales. Il y a deux fenêtres à guillotine et, de l'autre côté, il distingue des meubles de jardin en plastique blanc et une pelouse verte. Il fouille mentalement dans ce nouvel espace pour trouver la trace d'une famille ou d'une femme, mais il n'y en a pas. Il voudrait courir dans la maison pour crier à Alice qu'il est célibataire, mais il doit d'abord en découvrir bien plus avant de lui annoncer quoi que ce soit. Il se souvient de son travail dans une école. Il enseigne à des quatrièmes et à des troisièmes. Il a cherché parmi les élèves assis devant lui le visage de Kirsty. Elle n'est pas là, mais il voit le livre posé sur son bureau, le tableau blanc derrière lui, et apparemment, il est prof de maths. Il n'avait pas vraiment l'impression d'être prof de maths hier soir, au lit avec Alice. Il avait cru pouvoir être n'importe qui, n'importe quoi. Il se sentait plein de vie, brut, à nu. Il aime celui qu'il a été cette nuit-là, mais avec chaque nouveau souvenir qui lui apparaît, il se sent diminué. Circonscrit à être un enseignant vivant dans un appartement sale. Il entend de la musique traverser la cour depuis l'étage de la maison, les chiens qui aboient, les bruits d'un repas en préparation dans la cuisine. Il voudrait arrêter ses nouveaux souvenirs, dire à sa mémoire d'en rester là, aller se blottir contre Alice dans son lit, redevenir ce Frank vide, énigmatique et démuni qui ne peut pas la décevoir. Il se lève et ouvre la porte du studio. Il marche dans la cour en chaussettes. Le vent froid du soir lui fouette le visage. Il lève les yeux vers la fenêtre de la salle de bain à l'étage. À ce moment-là, Jasmine apparaît avec son visage pâle, ses cheveux sombres et ses lèvres rouges. Elle le regarde un instant, lui fait un signe de la main, se recule et ferme le rideau. Frank rentre dans le studio. Il n'a rien à faire ici. Il ne devrait pas, même s'il le souhaite profondément. Ce n'est pas juste pour Alice, pas juste pour ses enfants. La police lui dira qui il est, et il pourra aviser à ce moment-là. Il s'écroule sur le lit, lourd, une boule douloureuse dans la gorge à l'idée de les quitter, à l'idée de perdre Alice. Et soudain, il voit un chat roux qui s'appelle Brenda, sa petite gamelle sur le sol de la cuisine avec des restes de pâté sèche. Ce chat roulé en boule sur son canapé crème. Son chat, comprend-il avec surprise. Pourquoi appeler un chat Brenda? Puis, il commence à s'inquiéter. Qui lui donne à manger? Qui s'occupe d'elle? Ce nouveau souvenir lui procure la motivation dont il avait besoin. C'est fini. Demain, il saura qui il est.